C'est arrivé cette semaine, Dominique Souchier.
Une pensée, un style, mais Jean-François Revel qui nous a quittés était aussi une voix. Et ce jour-là, à Catherine Ney qui l'interrogeait, il parlait, écoutez, de la justice en France.
L'indépendance de la justice a été sacrifiée dans le berceau même de la Constitution de la Ve, quand on a décidé que le Conseil supérieur de la magistrature serait nommé et présidé par le président de la République, alors que sous la 4e, il était indépendant du pouvoir exécutif. Après, il y a eu dérive et aggravation du fait qu'il y a eu davantage besoin de couvrir les irrégularités du pouvoir exécutif, puisque la corruption a progressé, n'est-ce pas, n'a pas cessé de progresser. Par conséquent, plus il y a de délits à dissimuler, plus les pressions sur la justice sont fortes. Là encore, c'est la logique du système, encore qu'évidemment les faiblesses des hommes aient largement contribué à aggraver les inconvénients de ce système.
Mathieu Ricard, bonjour.
Bonjour.
Je vous remercie beaucoup, Mathieu Ricard, d'être là ce matin. Vous êtes un des enfants de Jean-François Revel. Et dans Paris Match, Claude Sarraute, sa femme, dit qu'avec Olivier Todd, qui était un des grands amis de Jean-François Revel, vous avez accompagné votre père pendant ses derniers jours. Mathieu Ricard, pardonnez-moi de vous poser la question aussi directement. Vous, qui avez fait d'autres choix que lui, puisqu'on sait que vous êtes moine bouddhiste, qu'admiriez-vous le plus chez votre père?
Durant ces moments où je l'ai accompagné dans la dernière semaine, je suis resté jour et nuit, les 4 derniers jours et nuits, j'étais frappé par sa sérénité, voyez-vous. C'était pas, on aurait pu imaginer autre chose de la part de mon père qui était un battant, mais il était d'une gentillesse, d'une politesse vis-à-vis de tout le monde. Donc c'était, je suis très heureux que ça partisse sereinement. Sinon, moi ce que j'admire vraiment, c'est qu'il a jamais cédé à des coteries, c'est-à-dire ce qu'il croyait profondément. C'est toujours ça qui marquait ses décisions. Et donc, il n'aurait jamais cédé à une sorte de complicité pour rentrer dans une coterie politique ou faire preuve de diplomatie et sacrifier ce qu'on pense vraiment être la vérité.
Est-ce que pour vous, il était d'abord un philosophe ou d'abord un journaliste?
Moi, je pense qu'il était un homme d'idées passionné par les idées qui peuvent éventuellement changer le monde, changer les statu quo. Il n'acceptait pas le règne des deux poids, deux mesures. Et il était aussi attristé parce qu'il avait la connaissance inutile, c'est-à-dire qu'il y avait les données, les connaissances nécessaires à éviter des supercheries, toute la force de la propagande. Et pourtant, ça recommence, ça continue. Et donc, c'est ça qu'il...
Le titre de son premier essai, c'était « Pourquoi des philosophes ?» Et c'était un livre polémique, alors qu'il était lui-même philosophe.
Et c'est pour ça qu'il avait aussi choisi ce pseudonyme, parce que comme il était professeur de philosophie, il ne voulait pas influencer ses élèves par son débat polémique. Et ça, moi, il me l'a souvent dit, notamment quand nous avons fait le moine et le philosophe ensemble, il a dit, la philosophie en tant qu'art de vivre, c'est-à-dire comment dois-je conduire mon existence, qui était la maxime des Grecs, hein, comment dois-je diriger la cité, comment dois-je conduire mon existence et que puis-je connaître. Donc il disait, la science maintenant répond à la question que puis-je connaître, la démocratie c'est comment devons-nous gouverner la cité, et comment dois-je conduire mon existence, il dit, à partir de Descartes, disons après Spinoza, c'était la philosophie essayant de construire des grands systèmes totalement incompréhensibles, inutiles pour notre existence, et donc l'échec de la philosophie moderne.
Il n'y avait plus de philosophie pour lui.
C'est-à-dire que la philosophie en tant que sagesse, c'est un concept qui est contesté par les philosophes modernes et qui, dans mon cas, est au centre de toute démarche, était un peu abandonnée. On construit des grands systèmes intellectuels, souvent incompréhensibles et généralement inutiles.
Comme journaliste, comme éditorialiste, il s'était imposé depuis de nombreuses années comme un des grands intellectuels éditorialistes de droite. Est-ce que c'est vrai que lui se considérait toujours comme un homme de gauche?
Écoutez, moi c'est curieux, parce que moi quand je suis parti, il faut dire que j'ai quand même, ça fait 35 ans que je vis dans l'Himalaya, donc c'est vrai que j'ai des trous.
Mais regardez ça de loin.
Moi j'étais surpris quand on m'a dit que c'était un homme de droite. Et une fois je l'avais invité parce que j'avais fait une semaine avec des dissidents chinois sur le problème du Tibet, etc., au Théâtre du Soleil avec Ariane Mouchkine. Je voulais inviter mon père, il m'a dit, ah non, il est trop réac. Mais j'ai dit, mon père, réac. Moi j'avais encore l'image, bon, vraiment moi c'est quelqu'un qui était pris de liberté. Je crois pas qu'on puisse vraiment dire qu'il est droite ou de gauche.
Il entendait ce qu'on disait de lui en bien ou en mal, ou il était franchement indifférent?
Ça, je ne peux pas trop vous dire parce que je n'étais pas souvent là au jour le jour, mais je crois que la force de ses idées prédominait sur ce qu'on pouvait dire de lui. Et d'autre part, ce qu'on disait de lui, ça suscitait des répliques qui étaient fondées non pas forcément sur une blessure d'orgueil ou autre chose, mais sur faire justement ressortir les faits qu'il pensait être méconnus. Donc je crois que c'est pour ça qu'il n'a pas fait de politique. Parce qu'il ne pouvait pas s'accommoder des atermoiements qui sont nécessaires pour être élu. Et pour continuer à être élu, et ce qui fait qu'il n'y a plus de volonté politique. Ça devient mollesse oblige, parce qu'on doit faire face aux sondages, on doit tergiverser avec... Et donc, on ne peut plus avoir cette volonté d'un grand homme politique qui doit faire prédominer ses idées et ceux qu'il croit.
Aussi radical, je dirais presque brutal qu'il pouvait être dans ses éditoriaux, dans ses écrits, il était, je peux en témoigner, dans la vie de tous les jours, extraordinairement urbain, extraordinairement poli, extraordinairement cordial.
Hein? Il était, oui, c'était quelqu'un qui savait les savoir-faire, sa culture le rendait.
C'était un bon vivant, disent ses amis.
Ça, hein? c'est sûr. C'est ce qu'il a perdu d'un certain point de vue. En même temps, il n'avait que 82 ans, il ne faut pas te plaindre non plus.
Il n'a pas mené la vie d'un moine.
Non, vous savez.
Non, certainement pas. C'est vrai qu'il jouait aux courses.
Ah, moi je me rappelle quand j'étais petit, il m'emmenait à Longchamp. Il me donnait 10 francs de l'époque pour choisir le cheval s'il avait une bonne tête. Ça lui arrivait, mais c'était plutôt la balade. Hein. Il n'était pas du tout un parieur qui va voir les résultats à la télé, au café. C'était vraiment la balade à Longchamp, un dimanche sur 7 ou 8, et voilà.
Vous avez co-signé avec votre père le moine et le philosophe. Est-ce qu'on peut traduire celui qui croit au ciel et celui qui n'y croyait pas, ou c'était plus compliqué?
Ah, certainement pas, parce que le bouddhisme est une religion qui n'est pas une religion théiste.
Je parle pour lui surtout.
Oui, non, c'était plutôt ce qui le fascinait dans l'histoire du bouddhisme, c'est justement que c'était une science empirique, une connaissance de l'esprit appliquée à chaque instant de l'existence, donc un art de vivre justement qui manquait à la philosophie moderne. C'est ça qui l'a intrigué, et c'est ça, je crois, qu'il a décidé à accepter de faire ce dialogue, parce que c'était un peu imprévisible. Moi, je me rappelle quand j'ai reçu un coup de téléphone au Népal en me disant « Est-ce que vous feriez un dialogue avec votre père ?» Je lui ai dit « Écoutez, allez-y, demandez-lui. » Je me dis « J'entendrai plus jamais parler d'eux. » Et quand 8 jours après, ils m'ont dit « Il a accepté », j'ai commencé à me dire « Il va me passer à la tronçonneuse. » Et en fait, ça s'est magnifiquement passé. Nous avons passé une semaine à dialoguer, à promener dans la montagne. Et c'est ça qui l'intéressait, c'était l'art de vivre, la philosophie, l'aspect transcendant, bien sûr. Il n'a jamais, disons, beaucoup de sympathie pour ça, mais il en est ressorti avec une idée très positive de la façon dont le bouddhisme approche les émotions dans le monde moderne comme quelque chose de tout à fait valable et pour notre temps.
Dans l'une des dernières interviews qu'il ait donné, au point, il parle de la vieillesse et il dit ceci: « Le dernier mot est rarement celui auquel on croit ».
Oui, ça c'est un peu une dernière, je dirais, virevolte du grand intellectuel. Mais aussi, la conclusion de Moine et le philosophe, c'était un peu ça. Je demandais finalement, pour toi, qu'est-ce qui est le sens de l'existence? Il m'a dit, tant qu'il y a la mort, cette mort porte une ombre sur cette existence. Et donc, il ne peut pas avoir une vision positive des choses. Mais je lui ai dit, mais quand même s'il n'y a pas d'au-delà, le fait, à chaque instant, d'essayer d'avoir une meilleure qualité de vie par une démarche spirituelle, est-ce que ça n'a pas un sens? Et c'est là qu'il n'a à nouveau pas répondu, en disant, pour la joie de nos lecteurs, je te laisse le dernier mot. Donc il a terminé aussi bien ce livre que sa vie sur ce point d'interrogation, ce qui aussi montre son ouverture d'esprit.
Je vous remercie beaucoup, Mathieu Ricard.
Je vous en prie.